Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Benny Axelakana.
Vous êtes bien sur la radio Ingram à Gateka Kawe. C'est l'heure du journal de ce vendredi 3 juin 2022. Voici d'abord les titres. 2-1, c'est le score final d'un match de football qui vient d'opposer les équipes féminines du Burundi et du Rwanda. Et ce sont les Burundaises qui se sont imposées. C'est dans le cadre d'un tournoi de la CECAFA qui se déroule à Kampala, en Ouganda. Et le Burundi se qualifie ainsi pour les demi-finales. Le personnel de l'ONATEL est loin d'être au bout de ses peines. Les travailleurs dévoilent aujourd'hui qu'ils n'ont plus le droit de contracter le moindre crédit. C'est suite à l'arrêt depuis 2 ans du versement du fonds pour leur pension complémentaire par l'ONATEL. Et puis, l'administrateur de la commune Vianda, en province Bururi, est accusé de détourner le sucre destiné à la population. Alexis Chimilimana ordonne de donner un sac par colline au lieu de 2 au moment de la distribution de ce produit. Merci d'être avec nous. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Le malheur en appelle un autre. Le personnel de l'Office national de télécommunications n'a plus le droit de contracter le moindre crédit. La raison, l'entreprise ne verse plus l'argent destiné au paiement de la pension complémentaire. De même, elle ne rembourse pas les dettes contractées sur la base de ce fonds de pension complémentaire. Du coup, ce personnel ne jouit plus de crédibilité auprès des institutions à même de lui prêter de l'argent. Les détails de ce dossier avec Eddie-Claude Ninina Hadoué.
Les travailleurs de l'Office national de télécommunications ONATEL se sont convenus avec leur employeur et le syndicat pour se payer une pension complémentaire. Ainsi, un employé pouvait cotiser jusqu'à 30% de son salaire. Il pouvait faire un choix de domiciliation de sa pension complémentaire entre la banque de crédit de Bujumbura, PCB, le fonds de promotion de l'habitat urbain ou la Socabou. Les fonds déjà cotisés servaient de garantir pour pouvoir bénéficier d'un crédit une somme que les agents de l'ONATEL qualifient de non négligeable. Le bénéficiaire pouvait alors en faire usage, par exemple, pour la construction d'une habitation moderne. Mais depuis avril 2015, lorsque l'ONATEL a cessé de verser à ces institutions les cotisations et les remboursements de crédits, certaines de ces institutions financières ont procédé au paiement de la dette par des fonds de pension déjà cotisés par l'employé. Le personnel de l'ONATEL crie à la trahison par leur employeur.
C'est vraiment inquiétant pour le personnel de l'ONATEL. Il faisait des retraits et il ne les acheminait pas vers ces différentes institutions. Il est arrivé un moment où le fonds de promotion de l'habitat urbain se donnait lui aussi le droit de se rembourser sur les fonds de pension complémentaires déjà cotisés. Quand les fonds de pension complémentaires sont décaissés avant l'âge de la retraite, il est frappé par un impôt de 30%. Aujourd'hui, certains des travailleurs ont vu leur garantie hypothéquée à la banque pour le non-paiement de la dette.
Heureux sont ceux dont la dette a été complètement remboursée par leur fonds de pension complémentaire. Pour d'autres, les titres de propriété qu'ils avaient déposés comme garantie ont été saisis par les banques. Ces derniers, tout comme leurs conjoints, sont sur la liste noire des personnes indésirables de la Banque centrale. Ils ne peuvent plus contracter le moindre crédit dans l'une ou l'autre des institutions financières à cause de cette perte de crédibilité causée par l'ONATEL. Pour les fonds de pension complémentaires qui étaient domiciliés à la banque de crédit de Bujumbura, les responsables de l'ONATEL ont effectué sur ces fonds un retrait de plus de 400 millions de francs sans l'aval du personnel, comme un emprunt de l'entreprise devait rembourser, mais le personnel a attendu son remboursement en vain. Les propriétaires des comptes de ces fonds de pension complémentaire à la BCB sont dans la désolation et indiquent assister à un désordre sans nom.
Les fonds qui étaient domiciliés à la BCB, les responsables de l'ONATEL sans consulter personne, ont fait le retrait de plus de 400 millions de francs burundais dans le fonds de pension complémentaire. Des travailleurs essaient toujours de réclamer d'une façon timide, mais en vain. Puisque vous le savez aujourd'hui, c'est de la jungle. Nous sommes dans la désolation. Aujourd'hui, un employé qui part en retraite laisse derrière lui 5 mois de salaire et les fonds de pension complémentaires qu'il a cotisés pendant plus de 10 ans part sans rien et sans espoir d'avoir ses biens.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kawe, nous n'avons pas encore eu la version de Privat Kabeba, directeur général de l'ONATER, sur les faits.
Hier, nous vous parlions des problèmes d'accès aux soins de santé pour le personnel. La faute à l'ONATEL qui ne verse plus les cotisations de ses employés à la mutuelle de la fonction publique. Restons dans ce domaine de télécommunication. Que pour parler brièvement de la licence de la société LACEL qui pourrait ne pas être renouvelée pour insolvabilité. L'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT, fait savoir à travers un communiqué que l'opérateur accuse une dette envers l'État burundais. Elle doit donc d'abord payer la totalité de cet argent pour avoir le droit de continuer à exploiter le réseau GSM. Or, à moins de 2 mois de l'expiration de sa licence, la SEL ne s'est pas encore acquittée de sa dette. Et puis, grogne au sein des habitants de la commune Vianda, dans la province de Bururi. Ils accusent Alexis Chimilimana, l'administrateur de cette commune, de détourner le sucre qui leur est destiné. À chaque distribution, une colline a droit à 2 sacs de sucre. Mais l'administrateur, lui, ordonne d'en en donner qu'un. Ce fut le cas ce jeudi. Et la population n'en peut plus. Trifine Kaniwavo.
Les informations recueillies par la radio Nzamba au sein de certains habitants de la commune Vianda disent que dans la distribution du sucre qui a eu lieu ce jeudi dans cette commune, il y a eu une zone d'ombre. Chaque colline devrait avoir 2 sacs de sucre, mais malheureusement, selon nos sources, l'administrateur de cette commune n'a donné qu'un seul sac, alors que ses habitants avaient payé pour 2 sacs.
Comme les habitants ont l'habitude de le faire, ils sont vite partis pour payer leur argent chez les chefs collinaires. Pour qu'une colline puisse être servie, il faut avoir payé à l'avance un montant correspondant à 2 sacs, ce qui a été fait. Malheureusement, ce qui nous a fort étonnés et choqués, c'est que l'administrateur de la commune Vianda a donné l'ordre pour que chaque colline reçoive un seul sac au lieu de 2. C'est-à-dire que toute la commune a reçu 17 sacs. Les 23 restants, il les a départagés aux commerçants qui lui sont proches pour aller vendre à un montant exorbitant. Aujourd'hui, pour avoir 1 kilo de sucre, il faut payer entre 7 000 et 8 000. C'est ainsi qu'il a donné du sucre à ceux qui partagent avec lui.
Ces habitants se demandent comment l'administrateur de la commune Vianda va combattre ceux qui spéculent dans la vente du sucre alors qu'il est le premier responsable. La rédaction de la radio Nzamba a appelé par téléphone chez Miliman Alexis, administrateur de la commune Vianda, pour des éclaircissements sur ce dossier, mais il n'a pas décroché son téléphone portable.
Merci Trifine Kaniwavo. Autre lieu, autre grogne. Le mécontentement atteint son paroxysme chez les utilisateurs du carburant de type essence ou gazoil en province de Muyinga. Ils protestent contre le désordre et la corruption qui se manifestent dans le rationnement de ce produit à la pompe. Le point avec Pierre Gahungu.
Inzamba.
La suite de cette édition. Ce 3 juin, le monde célèbre la journée internationale du pied beau. Au moins 600 enfants sont traités de cette maladie dite de pied beau au Burundi par an. Il s'agit d'une malformation congénitale des pieds. Ladislas Butoyi, chef de programme pied beau dans le réseau des centres des personnes handicapées au Burundi, indique que cette maladie peut être curable si l'enfant se fait soigner à temps. Il demande aux parents d'approcher ces centres une fois que l'enfant présente cette anomalie. Suivez.
Nous sommes ici au Burundi depuis 2011. Nous avons déjà à peu près 4000 enfants et nous continuons de les accueillir dans nos centres respectifs. Avec une moyenne qui oscille autour de 30 à 50 enfants nouveau-nés par chaque mois. Et annuellement, nous avons un cycle de 600 enfants par an que nous accueillons dans les différents centres respectifs avec lesquels nous avons établi des conventions de partenariat. Donc c'est ça ce qui est dit Thébo, c'est ça ce qui est dit traitement par la méthode de Ponseti. C'est des phases, c'est la phase de correction et la phase de maintien. Donc nous sommes en train de célébrer la journée qui est dédiée au Thébo. Pendant cette journée, alors, nous faisons le tour d'horizon de nos principales réalisations. Nous faisons également le tour d'horizon des défis que nous rencontrons. Et puis, nous essayons de formuler les différentes solutions possibles. Que nous continuons de sensibiliser, que nous continuons de porter le message très loin. Le message par rapport aux parents, le premier message le plus important, c'est que l'obstacle peut être traité. Et le deuxième message, c'est que le plus tôt est le mieux. Donc, dès que les parents constatent que leur enfant est né avec la malformation, il faut qu'ils amènent les enfants dans les centres de traitement très beaux, là où ils rencontrent des prestataires qualifiés, des prestataires formés, qui peuvent prendre en charge correctement leur enfant.
Parlons sport et plus précisément football pour terminer. D'abord, en bref, avec cette bonne nouvelle. Dans le cadre du tournoi de la CECAFA, des équipes nationales féminines des pays de la sous-région qui se déroule à Kampala, en Ouganda. Le deuxième match du groupe A a opposé ce vendredi après-midi le Rwanda et le Burundi. Et c'est le Burundi qui est sorti vainqueur de cette rencontre sur un score de 2-1. À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité d'un but partout. Le Burundi avait marqué le premier. Cette victoire propulse le Burundi en demi-finale, tandis que le Rwanda est éliminé de la compétition. Il reste un match pour le Rwanda contre Djibouti, match à l'issue duquel les joueuses rwandaises devront regagner leur pays. Le Burundi, quant à lui, jouera un match capital contre l'Ouganda dimanche. Ce match déterminera le premier du groupe A. Les deux pays sont tous qualifiés pour les demi-finales. Ce samedi, ce sera au tour de l'équipe nationale masculine du Burundi de jouer contre la Namibie. Il s'agit d'un match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire au mois de juin 2023. Une victoire pour le Burundi serait un grand pas vers la qualification à cette CAN. Quelles sont les chances du Burundi dans cette rencontre? La réponse avec Alexandre Niyungeko.
Le match contre la Namibie est capital pour la suite de la compétition pour la formation burundaise qui débute les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ce samedi 4 juin à Johannesburg en Afrique du Sud. La Namibie, un des pays africains sans stade homologué par la FIFA, jouera son match contre le Burundi sur le stade d'Orlando appartenant à l'équipe d'Orlando Pirates. C'est le même problème que le Burundi qui jouera ses matchs au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie. Cette équipe de la Namibie qui jouera contre le Burundi compte pour la plupart sur les joueurs évoluant en Afrique du Sud, faute de professionnels en grand nombre qui jouent en Europe. Elle est la 12e nation au classement FIFA, tandis que le Burundi occupe la 139e position. La Namibie a déjà joué la Coupe d'Afrique des Nations à 3 reprises, tandis que le Burundi compte une seule participation. Pour espérer atteindre la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Burundi doit faire un résultat positif dans cette rencontre dans la première journée et gagner les 3 points au match retour. Le combat pour la deuxième place sera intense entre les deux formations qui n'ont pas d'argument devant le Cameroun, l'autre équipe du groupe C. Pendant ce match, le Burundi est diminué par des absences qui ne sont pas des moindres. Il s'agit du capitaine Saïdo Berahino, joueur de Sheffield Wednesday en Angleterre, qui négocie actuellement son contrat avec de nouveaux clubs, de Youssouf Daichimie qui joue pour Besiktas en Turquie. Il est convalescent et ses médecins l'ont empêché de jouer cette rencontre. Il est actuellement le joueur le plus important de l'effectif d'Inamba Murugamba. Il s'agit également d'Hussein Chabane Chabadala, meilleur buteur du championnat rwandais, qui n'a pas eu de visa pour se rendre en Afrique du Sud. L'absence de ces trois joueurs est une perte énorme pour la formation entraînée par Jimmy Ndayizeye. La force sur laquelle va s'appuyer le Burundi et la cohésion des joueurs qui viennent de passer ensemble plusieurs années, un atout majeur dans un match de football. Pour cette rencontre qui se joue sur un terrain neutre, les chances sont égales entre les deux nations. Le dernier match qui a opposé les deux nations date du 29 mars 2016. La Namibie s'est imposée à Bujumbura sur un score de 3-1. Le second match du Burundi aura lieu le 9 juin au stade Benjamin Mkapa contre le Cameroun.
Alexandre Niungeko, c'est avec vous que s'achève cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.